Alors bonjour à chacun. C'est un plaisir de pouvoir célébrer le Seigneur en ce jour. Alors c'est dimanche, on dit c'est le jour du Seigneur, puis demain ce sera quoi? C'est tous les jours la fête avec Dieu notre Sauveur. Alors il va être au milieu de nous, il sera présent dans nos cœurs. Un accueil particulier à ceux qui nous visitent, je t'expliquerai tout à l'heure, c'est qu'il y a un séminaire en ce moment et il y a des personnes qui sont de France voisine, du canton de Vaud et d'ailleurs et qui sont venues à ce séminaire et qui sont au culte ce matin. Alors ce matin, je vais commencer en lisant un psaume, le psaume 8. Ô Seigneur, notre Maître, ta renommée est grande sur toute la terre. Ta majesté surpasse la majesté des cieux. C'est la voix des petits-enfants, des tout-petits-enfants que tu opposes à tes adversaires. Elle est comme un rempart que tu dresses pour réduire au silence les ennemis les plus acharnés. Quand je vois les cieux que tu as créés, la lune et les étoiles que tu as placées, je me demande, l'être humain a-t-il autant d'importance pour que tu penses à lui ? Mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? Or, tu l'as fait presque l'égal des anges, tu le couronnes de gloire et d'honneur. Tu le fais régner sur tout ce que tu as créé, tu as tout mis sous ses pieds, les moutons, les chèvres et les bœufs, et même les bêtes sauvages, les oiseaux, les poissons et tout ce qui se promène dans la mer. Ô Seigneur, notre Maître, ta renommée est grande. Sur toute la terre. Voilà, maintenant on va bientôt voir une vidéo. Alors, s'il y a des enfants qui sont encore derrière. Attends. S'il y a des enfants qui sont installés derrière, vous pouvez venir devant, il y a encore de la place. Alors, c'est l'histoire d'un homme, ça je dis pour les enfants, c'est l'histoire d'un homme qui ne va pas vouloir obéir. Je ne sais pas si des fois on vous dit de faire quelque chose, puis vous faites exactement le contraire parce que vous n'avez pas envie. Alors là, c'est l'histoire d'un personnage. On va lui dire, par exemple, d'aller à Chancy. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ne veut pas y aller. Donc, il va prendre le bateau à Genève et puis il va aller à Évian. Ce n'est pas du tout ce qu'on lui demande. Alors, vous allez voir l'histoire qui va lui arriver. On peut y aller?
Un jour, le Seigneur adresse cet ordre à Jonas, le fils d'Amittai. Debout, va à Ninive, la grande ville. Tu menaceras ses habitants en disant « Le Seigneur en a assez de voir vos actions mauvaises. » Jonas se met en route, mais pour fuir à Tarsis, loin du Seigneur. Il arrive à Jaffa, là il trouve un bateau qui part pour Tarsis, il paye son voyage, puis il monte dans le bateau pour aller avec les marins à Tarsis, loin du Seigneur. Mais le Seigneur lance sur la mer un vent violent, et la tempête est si forte que le bateau risque de se casser. Les marins ont peur, chacun crie vers son Dieu. Ils jettent à la mer tous les objets qui sont dans le bateau pour le rendre plus léger. Pendant ce temps, Jonas est descendu au fond du bateau, il s'est couché et dort profondément. Le capitaine du bateau s'approche de lui et lui dit « Quoi? Tu dors? Mais lève-toi, crie vers ton Dieu. Il pensera peut-être à nous et nous ne mourrons pas. » Puis les marins se disent entre eux « Pour connaître le responsable du malheur qui nous arrive, tirons au sort. » Il tire au sort et le sort tombe sur Jonas. Alors les marins lui disent « Notre malheur vient de toi. Dis-nous, qu'est-ce que tu fais ici? D'où viens-tu? De quel pays? De quel peuple es-tu ?» Jonas répond « Je suis hébreu et c'est le Seigneur que j'adore, le Dieu qui est au ciel, celui qui a fait la mer et la terre. » Puis il leur raconte son histoire. Les marins ont très peur. Ils disent à Jonas « Qu'est-ce que tu as fait là ?» En effet, maintenant, ils savent que Jonas fuit loin du Seigneur. Ils lui demandent, « qu'est-ce que nous allons faire de toi pour que la mer se calme autour de nous ? En effet, les vagues montent de plus en plus. Jonas répond au marin. Prenez-moi et jetez-moi à la mer, ainsi la mer deviendra calme autour de vous. Oui, je le sais, cette violente tempête vous attaque à cause de moi. Les marins rament pour rejoindre la côte, mais ils n'y arrivent pas. Les vagues montent de plus en plus contre eux. Ils prient le Seigneur et disent « Ah Seigneur, ne nous fais pas mourir à cause de cet homme. Ne nous rends pas non plus responsables de la mort d'un innocent. En effet, c'est toi, Seigneur, qui as fait ce que tu as voulu. » Puis ils prennent Jonas et ils le jettent à la mer. Alors la colère de la mer se calme. Ensuite, les hommes sont remplis d'un grand respect envers le Seigneur. Ils lui offrent un sacrifice et ils lui font des promesses avec serment. Le Seigneur envoie un grand poisson pour avaler Jonas. Jonas reste dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Dans le ventre du poisson, il prie le Seigneur, son Dieu. Il dit « Je suis très malheureux. Alors je crie vers toi, Seigneur, et tu me réponds. De la profondeur de la mort, j'appelle au secours et tu entends ma voix. Tu m'as jeté dans un trou profond au cœur de la mer, et l'eau m'entoure. Toutes tes vagues et toute ton eau tombent sur moi. Et moi je dis, tu m'as chassé loin de tes yeux. Pourtant, je veux revoir ton temple saint. L'eau m'arrive jusqu'au cou. La mer m'entoure. Des herbes s'enroulent autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'au pied des montagnes. Je suis dans le monde des morts, et les portes sont fermées à clé derrière moi, pour toujours. Mais toi, Seigneur, mon Dieu, tu me fais remonter vivant de ce trou. Seigneur, mon Dieu, je vais bientôt mourir. Alors je me souviens de toi, Seigneur, et ma prière monte près de toi, dans ton temple saint. Ceux qui adorent les faux dieux n'ont aucune chance d'être sauvés. Mais moi, je chanterai ta louange, je t'offrirai des sacrifices. Je tiendrai les promesses que je t'ai faites. Oui, c'est toi qui sauves, Seigneur. Alors, Seigneur, donne cet ordre au poisson, rejette Jonas sur la terre. Et aussitôt, le poisson obéit. Une deuxième fois, le Seigneur dit à Jonas « Debout, va à Ninive, la grande ville. » Annonce-lui le message que je te donne. » Alors Jonas se lève, il part. Mais cette fois, il va à Ninive, comme le Seigneur l'a demandé. Ninive est une ville extraordinairement grande. Il faut 3 jours pour la traverser. Jonas entre dans la ville, il marche pendant un jour entier. Il annonce aux gens, « Dans 40 jours, Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive croient à la parole de Dieu. Ils décident de ne rien manger. Tous mettent des habits de deuil, les riches comme les pauvres. Le roi de Ninive apprend la nouvelle. Il se lève de son siège. Il enlève son habit royal, il met un habit de deuil et s'assoit sur de la cendre. Puis, le roi et ses ministres donnent cet ordre. Criez dans la ville ces paroles. Il est interdit aux habitants et aux bêtes, bœufs, moutons et chèvres de manger et de boire. Tout le monde doit mettre des habits de deuil, les gens et les bêtes. Chacun doit crier vers Dieu de toutes ses forces. Chacun doit abandonner sa mauvaise conduite et arrêter les actions violentes qu'il fait. Qui sait ? Dieu changera peut-être d'avis. Il abandonnera sa colère contre nous et nous ne mourrons pas. Dieu voit leurs efforts pour abandonner leur mauvaise conduite. Il change d'avis. Il regrette le mal qu'il voulait leur faire et il ne le fait pas. Jonas n'est pas content du tout, vraiment pas du tout. Il se met en colère. Il fait cette prière au Seigneur. « Ah Seigneur, je le savais bien quand j'étais encore dans mon pays. C'est pourquoi je me suis dépêché de fuir à Tarsis. Je le savais bien, tu es plein de tendresse et de pitié, patient, plein d'amour et tu regrettes tes menaces. Maintenant Seigneur, laisse-moi mourir. Oui, je préfère la mort à la vie. » Le Seigneur répond à Jonas. « Est-ce que tu as raison de te mettre en colère ?» Jonas sort de la ville et il s'arrête à l'est de Ninive. Là, il se construit un abri et s'assoit dessous à l'ombre. Il veut voir ce qui va se passer dans la ville. Alors, le Seigneur Dieu fait pousser une plante au-dessus de Jonas. De cette façon, il aura de l'ombre et sera guéri de sa mauvaise humeur. Jonas est rempli de joie à cause de la plante. Mais le jour suivant, un peu avant le lever du soleil, Dieu envoie un ver. Le ver pique la plante et la plante sèche. Puis, quand le soleil se lève, Dieu envoie de l'est un vent brûlant. Le soleil tape sur la tête de Jonas. Il va bientôt s'évanouir. Alors il souhaite la mort et dit « Je préfère la mort à la vie. » Dieu demande à Jonas « Est-ce que tu as raison de te mettre en colère à cause de cette plante ?» Jonas répond « Oui, j'ai bien raison de me mettre en colère et de souhaiter la mort. » Le Seigneur lui dit « Toi, tu as pitié de cette plante. Pourtant, elle ne t'a demandé aucun travail. Ce n'est pas toi qui l'a fait pousser. En une nuit, elle a grandi. En une nuit, elle a séché. À Ninive, il y a plus de 120 000 habitants qui ne savent pas ce qui est bon pour eux. Il y a aussi beaucoup d'animaux. Alors, est-ce que je ne peux pas, moi, avoir pitié de cette grande ville de Ninive ? »
J'invite le groupe Louange à venir. Alors pourquoi cette histoire de Jonas ? Vous le saurez tout à l'heure pendant la prédication. Pourquoi est-ce qu'on loue Dieu ? Pourquoi est-ce qu'on le célèbre ? C'est une manière aussi d'accueillir le règne de Dieu. Il est parmi nous, mais c'est une manière de se mettre en route et de vraiment célébrer le Seigneur. Je vous invite à vous lever.
J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce à tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie. Notre Dieu qui un jour m'a
Voilà, les enfants peuvent rejoindre leur groupe d'école du dimanche avec leur moniteur. S'il y en a qui sont tassés derrière, il y a plein de places devant. Vous êtes les bienvenus devant.
Quand le soleil m'inonde sur les monts où ta présence abonde, oh, Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre, Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Quand ma foi est profonde, dans le doute, quand ma paix semble fondre, oh, Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je
je te
miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, beauté sans pareille, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare, tu es si tu vis en moi, je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi, je suis à toi.
Nous prierons. Seigneur, merci pour cette occasion de te célébrer. Tu es notre seul Seigneur, tu es le seul Dieu qui existe sur cette terre, dans les cieux. Merci pour ta présence, merci parce que tu nous permets de vivre ce culte avec plein d'autres personnes sur la planète, plein de personnes qui te louent ce dimanche matin. Merci parce que tu es vivant, merci parce que tu règnes, merci parce que vraiment, tu nous touches aussi dans nos cœurs. Nous te prions de nous visiter maintenant pendant ce message, que cela puisse nous toucher, nous former, nous permettre de progresser dans notre vie de foi, notre vie avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen.
Bonjour, ça va? Ouais, trop bien. Alors, si ça va bien, ce matin, j'aimerais commencer par vous poser une question et donc vous faire un peu réfléchir. Quelles sont les 4 valeurs essentielles à votre vie? Prenez un petit instant pour un peu vous introspecter et puis voir qu'est-ce que ça sort pour vous. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient les partager? C'est pas obligé. Hein. La famille. Une valeur, la famille.
La vérité.
La confiance. La paix.
La paix.
Le respect, l'amour. L'intégrité.
La justice.
La justice. vivre avec Dieu. Là. La première chose. Oui, la vivre avec Dieu, oui. Être en relation avec Dieu. L'identité. L'espérance. Le pardon. La réconciliation. Oui, ce sont des valeurs importantes. Moi aussi, je me suis posé la question pour moi. Et je pense que pour ma part, il y a la foi, l'empathie, la persévérance, puis aussi la prudence. Ce sont des valeurs qui me sont chères et qui sont des repères importants pour moi dans ma façon de construire ma vie au jour le jour. Mais il arrive que dans des situations, mes valeurs sont mises à mal. Et dans ces cas-là, je ne me sens pas bien. Je me sens tiraillée, remise en question. Le monde extérieur, l'environnement dans lequel nous évoluons, la famille, la société, le travail, et pour beaucoup en général c'est le travail, on se sent tiraillée entre nos valeurs profondes et les exigences que le monde font peser sur nous. Le monde fait peser sur nous. Et vous, ça vous est déjà arrivé de vous sentir coincé dans ces situations, tiraillé entre vos valeurs profondes et la pression des autres. Je ne sais pas bien pourquoi, mais dans ces moments-là, c'est comme si on vivait dans un épais brouillard, un peu comme si on était un tout petit peu plus en haut et coincé dans les nuages. Nos repères sont ébranlés et du coup, on perd le sens de la vie. On peut se sentir sur un terrain hostile et cela nous fait souffrir physiquement, psychiquement, spirituellement, corps, âme, esprit. Et dans ces moments-là, il arrive que nous demandions un signe du ciel, un signe de Dieu. Au cours du ministère de Jésus, des foules de personnes aspiraient à avoir de tels signes, sans doute parce que leurs espérances étaient mises à mal sous diverses oppressions de l'époque. La plupart des Juifs croyaient en un sauveur, en un Messie qui viendrait pour les libérer. Et les rumeurs autour de la messianité de Jésus les poussaient à le mettre à l'épreuve. Est-il bien celui qu'on attend? Et si je m'engage auprès de lui, si je dois placer ma foi en lui, alors lui, il doit me donner les garanties qu'il est celui qu'il prétend. C'est une pensée assez simpliste, et pourtant, qu'est-ce que c'est compliqué? En tout cas, ça complique beaucoup de choses. Parce que les signes et les exigences sur Jésus sont disproportionnées. Disproportionnées parce qu'elles outrepassent les valeurs fondatrices du peuple de Dieu. Les exigences sont telles que les valeurs de Jésus sont remises en cause par les autres. Et les gens sont-ils vraiment prêts à croire en lui? C'est tout l'enjeu du texte que je vais vous lire ce matin. En Luc 11, les versets 28 à 32, pour commencer. Heureux plutôt ceux qui écoutent ce que Dieu dit et le mettent en pratique. Tandis que les foules s'amassaient autour de Jésus, il se mit à dire « Cette génération est mauvaise. Elle réclame un signe, mais aucun signe ne lui sera accordé, si ce n'est celui de Jonas. En effet, de même que Jonas fut un signe pour les habitants de Ninive, ainsi le Fils de l'homme sera un signe pour cette génération. » Au jour du jugement, la reine du Sud se lèvera en face de cette génération et l'accusera, car elle est venue des régions les plus lointaines de la terre pour écouter les paroles pleines de sagesse de Salomon. Et pourtant, il y a ici plus que Salomon. Au jour du jugement, les habitants de Ninive se lèveront face à cette génération et l'accuseront, car les Ninivites ont changé de vie quand ils ont entendu prêcher Jonas. Et pourtant, il y a ici plus que Jonas. Juste avant ce passage, Jésus venait de guérir quelqu'un d'un démon qui rendait muet. Mais cette guérison a suscité deux réactions, un peu hostiles, c'est vrai, dans la foule. Il y avait ceux qui se sentaient menacés par la puissance qu'exerçait Jésus et ont commencé à l'accuser d'être un démon, Belzébul, il me semble. Et puis, il y avait ceux encore qui étaient méfiants et ont exigé de voir des signes encore plus fabuleux venant du ciel. Jésus va défendre sa position en faisant appel à l'intelligence des gens. Il explique qu'un démon ne va pas se chasser lui-même. Ça n'a aucun sens alors de l'accuser d'être un démon. Alors donc, s'il n'est pas un démon, il faut en conclure que c'est Dieu qui agit en Jésus. Face à ce constat, il déclare « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » Moi, je dirais « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la chérissent comme un trésor. » Parce que nos traductions, c'est vrai, elles disent souvent qu'il faut mettre en pratique la parole, mais le mot grec met l'accent en fait sur le fait de traiter avec une immense considération cette très valeureuse parole. Jésus ensuite s'adresse à ses détracteurs en leur disant que le seul signe qu'ils auront sera le signe de Jonas. Et avec la vidéo que vous avez vue au début du culte avec les enfants, vous avez l'histoire de Jonas en tête maintenant. Jonas avait été jeté dans la mer quand une terrible tempête s'était abattue, alors qu'il fuyait Dieu qui venait ébranler ses valeurs profondes. Parce que Jonas refusait que Dieu sauve un peuple ennemi. Le salut de Jonas est venu alors d'un poisson qu'il a avalé. Et dans les entrailles de cet animal, Jonas vécut le début d'un changement majeur. 3 jours après, le poisson le recracha sur la terre et Jonas partit, bon gré, mal gré, accomplir la volonté de Dieu à Ninive. Grâce à l'éclairage du texte correspondant que je vous ai lu dans Luc 11, le texte correspondant c'est dans Matthieu 12, nous savons que le signe de Jonas voulait parler des 3 jours et des 3 nuits que Jésus a vécu dans les entrailles de la terre. 3 jours de mort avant de ressusciter à la vie. Le signe que tous attendent n'est donc pas dans le ciel. En tout cas, il ne faut pas le chercher là. Il est à trouver au fond d'un tombeau vide. Dure réponse pour ceux qui aspirent à de l'enchantement. Et beaucoup n'ont pas pu accepter cette réponse, car elle confrontait leur aspiration profonde, celle de voir par-dessus tout la puissance de Dieu se manifester dans l'agressivité. Or Dieu, en Jésus, va démontrer sa toute-puissance dans la position la plus vulnérable. Il y a un clair rapport de force qui s'engage entre Jésus et cette foule. Jésus va continuer de devenir vulnérable et les détracteurs, eux, vont devenir de plus en plus agressifs envers Jésus. Et ce rapport de force va monter crescendo jusqu'aux événements de la croix quelques mois après. Oui, on peut le dire, Jésus a subi des pressions dans son ministère. Il subit la pression au travail. Et dans le même texte de Matthieu 12, que je vous ai mentionné avant, Jésus subit également de la pression au sein de sa famille qui ne le soutient absolument pas. Le monde du travail, comme le monde religieux du temps de Jésus, fonctionne sur un contrat de subordination, c'est-à-dire un rapport hiérarchique. Un rapport qui est nécessaire et bénéfique car il définit les contours, les règles d'un environnement où exercer son métier, où exercer ses croyances. Pour les contemporains de Jésus, le contrat était élaboré par le clergé du temple qui fixait des règles de vie qu'ils interprétaient selon les textes de l'Ancien Testament. Les croyants vivaient par ces règles qui définissaient le vivre ensemble, le rapport à Dieu, les standards éthiques et moraux et les sanctions à appliquer contre tous ceux qui péchaient à respecter ces règles. Ce rapport hiérarchique a pour but de protéger les individus ou le groupe pour que tous puissent accomplir au mieux le mandat, leur mandat. Mais ce rapport hiérarchique reste un rapport de force qui peut dégénérer si les valeurs des chefs sont en contradiction avec celles de l'individu. Et c'est ce qui se passe dans le texte que je vous ai lu entre Jésus et la foule, et plus tard entre Jésus et les chefs religieux. Et c'est malheureusement aussi la réalité dans la sphère professionnelle de nos jours. Il y a un clair déséquilibre de force, des contraintes, des pressions, et le fléau du burn-out professionnel se répand comme une traînée de poudre dans notre société occidentale. Dans le système de santé, par exemple, on cherche à optimiser les coûts en poussant à traiter le maximum de patients dans un laps de temps réduit. Le personnel soignant est alors mis sous stress et les malades en subissent les conséquences. Plus de pression, plus de coûts pour la santé et moins de prestations. Le rapport de force s'est péjoré avec les crises économiques et la pandémie. Dans la santé, dans l'éducation, dans l'industrie, dans la sécurité, dans les transports, dans les administrations et j'en passe, les attentes et les exigences sont toujours plus élevées alors que les moyens, eux, ne sont plus très adaptés. Comment bien faire son travail dans ces conditions ? Est-il vraiment possible de conserver ses valeurs dans un tel environnement ? Parfois, oui. Souvent, c'est difficile. C'est ce qui rend vraiment les choses très complexes. Le monde du travail souffre, c'est un constat. Et cela a de graves répercussions sur la santé de beaucoup. Et quand on va mal, il est très difficile d'y voir clair. On a besoin qu'on nous apporte de la clairvoyance. On a besoin que d'autres nous aident à retrouver notre chemin. Par exemple, des personnes qui sont aussi passées par des moments douloureux et qui ont réussi à s'en sortir. Cela peut aussi être un thérapeute qui peut nous aider à avoir un regard neuf sur notre situation. Aussi, on peut essayer de faire un bout de chemin seul, de prendre un peu de recul, de s'élever au-dessus de la mer de nuages pour y voir clair. Mais c'est en général un chemin qu'il vaut mieux pas avancer seul dessus. Bref, tout ça pour dire qu'on a besoin de lumière, ça je peux vous l'assurer. Et d'ailleurs, Jésus, lui, peut vous assurer cette lumière. Lui qui l'a conservée en lui, coûte que coûte. Et ça lui a coûté sa vie. L'oppression qu'il subissait n'a pas réussi à éteindre sa lumière. Jésus est venu dans le monde des ténèbres comme la lumière. Il était donc inenvisageable pour lui d'en être privé. Par lui, c'est l'humanité qui peut y voir clair. Au commencement était la parole. La parole était la vraie lumière qui, en venant de le monde, illumine tout homme. C'est pour cela, je pense, que Jésus dit au verset 28 de Luc 11, « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu, la mettent en pratique ou la chérissent comme un trésor. » La parole que Dieu nous donne, c'est notre marge de manœuvre dans les ténèbres. La parole de Dieu agit. Elle est une puissance créatrice. Grâce à elle, nous ne sommes pas démunis. Nous ne sommes pas démunis même quand on se sent impuissant. À la suite du signe de Jonas, Jésus rajoute, je reprends verset 33, « Personne n'allume une lampe pour la cacher ou la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur le porte-lampe afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. » Et si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais si ton œil est malade, alors ton corps est dans l'obscurité. Ainsi, prends garde que la lumière qui est en toi ne soit pas obscurité. Si donc tout ton corps est éclairé, sans aucune partie dans l'obscurité, il sera tout entier en pleine lumière, comme lorsque la lampe t'illumine de sa brillante clarté. La lumière vous est donnée. Vous n'êtes plus dans l'obscurité. Il est important de voir. Alors ne cachons pas cette lumière sous un seau. Aussi, parfois, on le fait pour se donner l'excuse de ne pas voir et d'être en position de subir. Et c'est ce que reproche Jésus, d'ailleurs, à la foule qui venait lui demander encore plus de signes. La lumière, elle vous est déjà donnée, alors regardez. Ne restez pas exprès dans l'ombre. Au début de mon message, je vous ai demandé quelles étaient vos quatre valeurs essentielles. Si vous avez de la lumière, vous pouvez repérer ces valeurs en vous, les récupérer, les revendiquer. Car personne ne peut les effacer, les écraser. Elles sont à vous, ces valeurs, elles ne sont rien qu'à vous. La parole nous permet de prendre soin de nous, de nous préoccuper des choses qui comptent aux yeux de Dieu. Mais voir et prendre soin de nous, ce n'est pas toujours simple, c'est vrai. Mais au moins, nous avons les moyens de le faire, de répandre à notre tour aussi un peu de la lumière que Dieu nous a confiée. Cette lumière, elle se répand notamment au travers des valeurs, des dons que Dieu a placés en nous. Alors même lorsqu'on se sent tiraillé entre nos valeurs et le poids du monde, nous pouvons et nous devons chérir de tout notre cœur la parole qui donne la vie. C'est comme une bouffée d'air frais qu'on respire. Jésus nous donne dans ce texte de Luc 11 comme des clés pour tenir bon dans l'oppression. La prière en est une d'ailleurs. Au début de ce chapitre de Luc 11, Jésus est en prière. Il prie ceci. Un jour, Jésus pria en un certain lieu. Et quand il eut fini, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Et Jésus leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que chacun reconnaisse qui tu es, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à tous ceux qui nous ont fait du tort. Et ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve. » Voyez, Jésus prie juste avant d'être éprouvé par la foule. Et dans la prière, Jésus confie au Père ce qu'il a de plus cher. Jésus n'est pas seul. Et il n'est pas si vulnérable au final si Dieu est avec lui. Et c'est pour cela que la prière est importante. Prendre conscience de ça, ça fait un bien fou. Prier, c'est un pouvoir que personne ne peut vous enlever. Je dis que c'est un pouvoir parce que c'est nous qui pouvons, ou pas, avoir recours à ce moyen d'action, même si c'est Dieu qui agit au final. Appeler au secours le Seigneur n'est pas une marque de faiblesse. C'est la première étape d'une action puissante. Car Dieu n'est pas sourd à nos SOS. Contrairement à ce que beaucoup de salariés peuvent ressentir quand ils essaient de demander de l'aide à leur direction. Une deuxième clé que Jésus nous donne, c'est de prendre soin de la parole de Dieu. Je l'ai déjà dit. Car la parole, c'est la vie. C'est ce qui permet à tout humain de retrouver le chemin quand la tempête gronde, qu'elle fait beaucoup de bruit, impressionne, déstabilise. Même quand la pression s'acharne, la parole de Dieu continue de s'exprimer, de se faire entendre, si on tend bien l'oreille. La parole de Dieu, c'est aussi l'histoire de Dieu qu'on trouve à travers la Bible. La Bible, elle est passionnante. Elle fait écho à tellement de choses qui nous parlent tout en nous dépassant. Elle engage notre foi. Et je crois sincèrement que lorsqu'on laisse les mots de la Bible résonner en nous, ces mots sont un appel à la vie et à la résurrection. Les ténèbres deviennent lumière et ce qui nous fait peur tout à coup commence à se réduire. Être dans la lumière est aussi une clé. Plus nous avançons avec un œil éclairé, mieux nous réussirons à dégager notre vie des pressions exercées par les ténèbres. Être clairvoyant, lucide, honnête, authentique, empathique, ce sont des valeurs que Dieu donne pour faire rayonner sa gloire. Cultivons-les, ces valeurs. Elles sont les reflets de la vérité qui nous aident à tenir ferme dans toutes sortes de pressions que nous subissons au quotidien. Cherchez de tout votre cœur les valeurs que Dieu a placées en vous. Elles sont à l'image du Christ. Prenons-en soin, ne les cachons pas. Elles vont les sur un porte-lampe, car il n'y a rien de plus beau que de voir la gloire de Dieu agir et briller dans ce monde qui en a tellement besoin. Nous avons tous, au final, notre mission à accomplir à la lumière. Amen.
Je vous propose un temps de calme où vous pouvez prier, un temps où on intègre ce qui a été dit. C'est tellement important. Faisons silence. Amen. Je ne peux pas éviter de vous dire ce que j'ai vécu ce week-end. Donc, il y a quelques personnes de notre communauté et des personnes externes qui sont là, qui ont suivi, qui suivent en ce moment un cours, une formation, un séminaire qui s'appelle Libérer. Alors, ceux qui ont suivi, lèvent la main. Donc, il y en a quand même. Passablement, il y en a qui sont de l'extérieur. Donc c'est une invitation qui a été faite par une église qui est à Paris, dans le Marais, et c'est une formation justement sur le thème de la libération de notre esprit, de notre âme, de notre corps, d'être vraiment libre pour servir le Seigneur. Alors c'était un rappel, c'est très émouvant, j'ai vécu beaucoup de choses pendant cette première partie du week-end, et on voit que le Seigneur libère, c'est vrai, vraiment qu'il libère, qu'il permet d'être libre, qu'il guérit, et que c'est un ministère qu'il a donné, j'allais dire au pasteur, ben non, il a donné au pasteur, mais il a donné à tous les chrétiens. Et en fait, on était 37 réunis au CEPOM, par l'Église protestante d'ailleurs. Et on a vu que le Seigneur intervenait et permettait des choses assez extraordinaires. Alors, c'est un encouragement que je vous partage. C'est vrai que le Seigneur fait beaucoup, beaucoup de choses et nous encourage à vivre aussi ces libérations, ces partages, ces prières les uns pour les autres entre nous. Donc, il y a de l'avenir dans ce domaine. Et j'encourage vraiment les uns et les autres à penser à écouter le Seigneur et à vivre ces choses. D'ailleurs, c'est un ordre. Hein, si on regarde ce que Jésus a dit, il a dit « partez partout et annoncez le règne de Dieu ». Et il a dit « libérez les captifs, guérissez les malades et baptisez-les une fois qu'ils sont engagés dans la foi ». Voilà, c'était juste quelques mots. On pourra en reparler si vous voulez. Maintenant, on va passer à la Sainte Cène. Alors, en prenant le pain et le vin, nous nous souvenons de ce que le Seigneur a fait pour nous racheter, pour nous réconcilier avec Dieu. Voici un extrait de Éphésiens 2, versets 11 à 13. « Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a fait part. Il nous a ressuscités, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc à la Sainte Cène, nous nous souvenons de ces fêtes, ces choses qui se sont passées. Ce que Jésus a fait pour nous, il l'a fait pour tous. Et chacun est venu et à lui et expérimente la miséricorde de Dieu pour lui-même. La Sainte Cène nous rappelle ce que ça a coûté à Jésus-Christ, notre Sauveur. Il a payé pour nous, pour nous racheter. Quand nous mangeons le pain et buvons le vin, les symboles de la mort de Jésus et de sa résurrection, nous nous identifions avec Christ. Nous proclamons « Je fais partie de Christ, j'ai été sauvé et maintenant je fais partie de sa famille, de la famille de l'Église, de la famille de Dieu. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Voilà, nous allons partager le pain et le vin. J'aurais besoin de 3 personnes pour nous aider. Je ne les ai pas choisies à l'avance, merci. Encore une. Magnifique.
Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ta vie donnée pour nous, pour que nous puissions pleinement vivre. Je te prie Seigneur que nous puissions le faire en hommage à toi chaque jour, à chaque instant de notre vie. Amen.
Amen. Alors pour des questions pratiques, sachez que les coupes, au centre c'est du jus de raisin, à l'extérieur c'est du vin. Et voilà. Et puis, pendant ce temps, on peut y aller. Pendant ce temps de partage de la Sainte Cène, je vous invite à prier. Et je vous invite à prier de manière un peu différente, c'est-à-dire de prier et d'écouter. Que nous puissions écouter ce que le Saint-Esprit nous dit, parce qu'il parle. Ça nous a été rappelé ce week-end, mais je pense que tout le monde le sait. Le Saint-Esprit peut parler, peut nous révéler quelque chose, nous donner un encouragement. Et j'invite les uns les autres à prier aussi dans ce sens. Alors prions et que le Seigneur vraiment nous encourage, nous fortifie. Oui, Seigneur, merci parce que tu es notre bénédiction, tu es notre sauveur et merci parce que tu parles encore. Merci pour ce moment de partage, des signes de ton amour. Merci pour ce moment de prière. Amen. Il ne faut pas se crisper, vous pouvez dire un mot, un verset, et que nous puissions vraiment louer Dieu.
pour pouvoir le faire. Et merci pour toutes les fois où nous l'avons fait un temps long. Et maintenant, le résultat est parfait. Nous bénissons ces personnes qui ont pu attendre ces bonnes nouvelles pour moi-même, je l'ai entendu. Maintenant, c'est grâce dans le nom de Jésus.
Amen. Amen.
Moi, je vais prier pour trois dames qui sont dans le même établissement que moi, qui pensent que Dieu n'existe pas. Alors, j'ai dit que je priais aujourd'hui pour les trois. Si elles savaient comme Dieu m'aide à vivre, elles le feraient aussi. Merci, Seigneur.
Amen. Amen.
Oui, Seigneur Jésus, tu as mis en nous des valeurs. Alors, Seigneur, ces valeurs ne soient pas sous un sceau, Seigneur, mais vraiment sur le porte-lumière. Mm-hmm. Seigneur, que nous puissions être témoins avec ces valeurs que tu nous as données, avec ta présence. Et aussi avec l'aide de ton Esprit Saint. Alors Seigneur, bénis-nous aussi par ton Esprit Saint. Seigneur, que nous soyons audacieux. Amen.
Amen.
Père, moi je te prie pour les familles. Les familles, Seigneur, en ce moment sont toutes ébranlées, Seigneur. Toutes les valeurs, Seigneur, sont perdues. Je te prie, Seigneur, toi tu aimes les familles. Alors, voilà, je te prie au Seigneur que ta lumière brille, Seigneur, si puissante que vraiment que ces valeurs puissent revenir de nouveau, Seigneur, dans les familles. Et premièrement, le Seigneur, te reconnaître que toi, tu es le Seigneur de toutes choses et aussi, Seigneur, tu es le Seigneur qui a créé, que tu as voulu les familles, Seigneur. Alors, je te prie pour ça au Seigneur. Que revienne, Seigneur, à toi, toutes les familles, Seigneur. Et je mets la mienne aussi, Seigneur. Et je te rends grâce, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire. Toi, Seigneur, que rien n'est impossible à toi. Je te loue au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Oui, Seigneur, la foule demandait plus de signes. Et souvent, on en demande aussi beaucoup. Mais tu nous as déjà donné le signe qu'il fallait, la croix. Et moi je te demande surtout plus de foi pour y croire et pour croire que c'est par ce moyen-là que tu agis et par aucun autre. Amen.
Amen. On aimerait bien avoir tous une grande foi. On peut aussi se dire qu'on a une foi en un grand Dieu, c'est encore mieux. Voilà, nous allons écouter un chant de Hillsong qui s'appelle Ancre, avant de passer aux annonces. Thank you.
J'ai cet espoir.
Bonjour à chacun. J'ai la chance de vous communiquer les annonces. La chance parce que quand il y a des annonces, ça veut dire qu'il y a de l'activité. Cette activité, elle est grâce à des gens, des personnes qui s'investissent, mais aussi des gens qui donnent. Et c'est grâce à votre générosité que vous pouvez exercer au fond, avec soit mettant dans le panier, soit avec Twin, soit avec le CCP. Donc on vous remercie pour votre générosité. Cette semaine, mercredi, le groupe CTT a sa soirée à 20h, habituellement, comme d'habitude. Et puis, ils organisent aussi samedi 4 février à 20h. Donc, c'est trois jeunes de CTT qui organise à 20h le samedi 4 février une soirée louange dans leurs locaux. Tout le monde est bienvenu. Donc venez nombreux pour les soutenir, pour être là avec eux, pour profiter de ce qu'ils nous mettent à disposition, cette soirée louange. C'est une belle activité. Et puis cette semaine, ben grosso modo, c'est tout. Et c'est que les jeunes qui font des activités, c'est cool. Appel aux autres, hein, si vous voulez faire quelque chose, n'hésitez pas à venir vers nous. Ensuite, dimanche prochain, c'est un culte qu'on dit intergénérationnel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire que ceux qui manquent ce matin parce qu'ils sont descendus reviennent. Donc les enfants participent au culte et c'est un culte qui est adapté à tous les âges. Donc venez nombreux, c'est dimanche prochain. Donc c'est un culte à vivre tous ensemble. Et puis en plus pour le club des potes, ils auront à la suite un repas, ils ont été invités, ils ont reçu un petit courrier. Il faudra y répondre pour les parents qui ont reçu ce courrier. Donc y répondre, je crois, pour le 1er février, c'est juste. Nicolas, oui, c'est juste. Très bien. Et puis, le dimanche 19 février, il y aura un culte découverte. Oui, merci de le préciser. Donc, pour les enfants, il y a un repas, mais il y a aussi notre traditionnel repas communautaire du début du mois. Alors, repas communautaire, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un repas canadien, pour ceux qui connaissent peut-être plutôt repas canadien, c'est que chacun apporte quelque chose et on met tout en commun pour manger et goûter un petit peu de toutes les bonnes saveurs qui sont offertes. Donc dimanche 19 février, un culte découverte, c'est un culte qui est mis en place de manière à ce que vous puissiez inviter des personnes qui se posent des questions sur ce qu'est une église, sur un culte, et qui permet justement de découvrir un petit peu le culte, qu'est-ce que c'est, donc avec une approche un peu plus simple, un peu plus abordable pour des personnes qui ne connaissent pas ce qu'est un culte. Et puis, dernier point, au dernier colloque, on avait parlé de la mendicité, où le conseil, nous avions mis en place un petit texte que nous avons revu suite aux commentaires qui nous ont été faits, qu'on a affiché à la sortie, donc ce texte revisité qu'on pourrait consulter. Merci.
Je vous invite à vous lever pour la bénédiction finale. Lecture dans Ésaïe chapitre 60. Mets-toi debout et deviens lumière. Car elle arrive, ta lumière. La gloire du Seigneur sur toi s'est levée. Voici qu'en effet les ténèbres couvrent la terre et un brouillard les cités. Mais sur toi le Seigneur va se lever et sa gloire sur toi est en vue. Allez, en ayant l'œil éclairé pour voir la lumière de Dieu briller au cœur de votre vie. Recevez sa paix, sa grâce et l'assurance de son amour pour vous soutenir tous les jours. Amen. Très bon dimanche et bonne semaine à chacun.